Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 23 novembre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Émeute en Iran, le Parlement européen rompt ses liens avec Téhéran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la voie de l'interaction Iran-IOA reste ouverte, a dit Téhéran. Rencontre entre des experts iraniens et ukrainiens autour des drones iraniens. Et puis deux explosions ont secoué la ville occupée d'Al-Rout, tuant une personne et en blessant plus d'une douzaine. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le porte-parole de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien a déclaré qu'au dépourvu par les officiels et informels entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, IOA, sont en cours. La voie de l'interaction entre l'Iran et l'IOA reste ouverte, mais des actions comme la publication d'une résolution anti-iranienne détruit leur coopération, a-t-il averti. Lors d'une interview accordée à l'IRNA, le porte-parole de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien, Aboulfazl Amoui, a déclaré que le plan global d'action commun de 2015 établissait un équilibre entre les engagements des deux parties, dont chacune devait mener à bien ses missions séparément. Au paragraphe 26 du plan global d'action commun PGAC, autrement dit l'accord nucléaire de 2015, il est souligné que si la République islamique d'Iran estime que l'autre partie ne remplit pas ses obligations, elle a le droit de prendre des mesures compensatoires, a-t-il noté. Et d'ajouter, dès le début de la mise en œuvre du PGAC, les États-Unis et l'Europe n'avaient pas respecté leurs promesses. Et enfin, en 2018, avec le retrait des États-Unis, la mise en œuvre du PGAC et la levée des sanctions ont été mises à mal. Ensuite, Téhéran a décidé de réduire ses engagements en plusieurs étapes au nom même de l'accord. L'action de l'Iran de réduire certaines de ses obligations est mise en œuvre conformément au paragraphe 26 du PGAC. La question liée à la réduction des obligations du PGAC est incluse à la fois dans le texte du PGAC en annexe dans la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui endosse l'accord, a-t-il précisé. Pour cette autorité iranienne, l'agence des gouverneurs est manipulée par Israël. Le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien a souligné que les mesures compensatoires de l'Iran sont à la fois légales et adoptées en représailles des actions de l'autre partie. Nous avons également annoncé officiellement que si l'autre partie exécute pleinement ses obligations, nous sommes prêts à revenir à nos engagements, a-t-il dit. Il a qualifié la réaction des parties occidentales et européennes aux mesures compensatoires de l'Iran d'illogique. Les Européens abusent des organes politiques, y compris le Conseil des gouverneurs de l'AIOA, et tentent d'accroître la pression politique sur l'Iran. Selon ce parlementaire iranien, des pourparlers officiels et officieux entre l'Iran et l'agence sont en cours. La voie de l'interaction entre l'Iran et l'agence est ouverte, mais les actions telles que la publication d'une résolution portent préjudice à leur coopération, a-t-il averti. Rencontre entre les experts iraniens et ukrainiens autour des drones iraniens. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a fait état d'une réunion d'experts iraniens et ukrainiens concernant l'utilisation présumée par la Russie de drones iraniens en Ukraine. Des experts iraniens et ukrainiens se sont rencontrés mardi 22 novembre pour discuter des allégations concernant l'utilisation présumée de drones de fabrication iranienne par la Russie en Ukraine, a souligné le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Une réunion d'experts a eu lieu, je ne peux pas divulguer les détails, a dit cette autorité. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine, a plutôt déclaré que les accusations des pays occidentaux, selon lesquelles l'Iran aurait fourni des drones à la Russie pour une utilisation en Ukraine, sont sans fondement. Par de telles accusations, ils tentent de justifier leur livraison illégale d'armes à l'Ukraine. Les instigateurs et auteurs de contenu à motivation politique sur la prétendue livraison de drones par l'Iran à la Russie contre l'Ukraine se rendent compte profondément de l'échec de leur tentative. Par de telles actions, ils se discréditent complètement en tant que participants au PGAC, l'accord nucléaire de 2015, précise cette autorité russe. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, CGRI, a déclaré qu'il poursuivrait ses opérations transfrontalières contre les groupes terroristes anti-iraniens basés dans la région du Kurdistan irakien jusqu'à ce qu'ils soient désarmés. Le commandant de la force terrestre du CGRI a appelé les personnes résidant à proximité des bases terroristes dans le nord de l'Irak à évacuer la zone. Le général de brigade, Mohammad Pokpour, a déclaré que ses forces avaient utilisé des missiles et des drones pour cibler les bastions des terroristes séparatistes anti-iraniens basés dans le nord irakien. Le CGRI mène des frappes contre des cachettes terroristes dans la région du Kurdistan depuis fin septembre. L'Iran a averti à plusieurs reprises les responsables kurdes irakiens de mettre fin aux activités des groupes terroristes basés le long de ses frontières. Mais selon le CGRI, le gouvernement régional du Kurdistan n'a pas réussi à les neutraliser. Le CGRI affirme que des terroristes basés dans le nord irakien sont récemment entrés dans les villes frontalières de l'Iran pour mener des attaques armées dans le pays. L'attaque contre les quartiers généraux et les bases des criminels armés et des groupes terroristes se poursuivra jusqu'à ce que la menace soit éliminée et que leur désarmement soit fait, a encore déclaré le général Pokpour. La force terrestre du CGRI a déclaré mardi dans un communiqué avoir lancé mardi une nouvelle série d'attaques contre les positions des groupes terroristes dont le PKK, parti de la liberté du Kurdistan, basé dans la région du Kurdistan irakien. L'ambassadeur d'Iran à Bagdad, Mohammad Kazem al-Sader, a exclu l'existence de projets d'opérations militaires terrestres contre des groupes terroristes et séparatistes basés dans la région du Kurdistan irakien. Le corps des gardiens de la révolution islamique CGRI a déclaré qu'un de ses experts en aérospatial avait été tué en Syrie. Selon une déclaration du CGRI, le colonel Davoud Jafari, qui était conseiller militaire, a perdu la vie dans l'explosion d'une bombe en bordure de route près de Damas. L'OCGRI accuse les agents sionistes de l'attaque, affirmant que le régime criminel paiera sans aucun doute pour ce crime. L'Iran a maintenu des missions du Conseil en Syrie à la demande du gouvernement de Damas. Les conseillers militaires iraniens ont aidé le pays déchiré par la guerre dans sa bataille de 10 ans contre les terroristes et les extrémistes armés soutenus par l'étranger. En 2017, l'assistance consultative de l'Iran a aidé la Syrie à vaincre le groupe terroriste de Daesh. Enfin, deux explosions ont secoué la ville occupée d'Al-Rout, tuant une personne et en blessant plus d'une douzaine. La première explosion s'est produite dans une gare routière à l'entrée de la ville d'Al-Rout, tandis qu'une deuxième explosion a visé un arrêt de bus à une courte distance. Israël rejette la responsabilité des attaques sur les Palestiniens. Le Hamas et d'autres groupes de résistance palestiniens, dont le djihad islamique, ont salué l'opération, la qualifiant de réponse naturelle aux crimes israéliens. Les explosions se sont produites au milieu de la violence croissante d'Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée ces derniers mois. Les Palestiniens sont soumis à des centaines de crimes et d'abus israéliens qui sont devenus presque quotidiens, tels que les raids sur les bâtiments et les lieux saints, les assauts et la démolition systématique des maisons. Pour les commentateurs et les militants, les opérations israéliennes contre des Palestiniens sans défense sont violées toutes les lois et conventions internationales. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Émeute meurtrière en Iran. Le Parlement européen rompt ses liens avec Téhéran. Dans un geste non diplomatique visant principalement à accroître le soutien aux fauteurs de troubles et aux casseurs en Iran, les eurodéputés ont rompu leur lien avec Téhéran en raison de la sanction qu'ils ont qualifiée d'inacceptable, infligée par l'Iran aux certains députés européens. Il n'y aura pas d'interaction directe entre les délégations et les commissions du Parlement européen et leurs homologues iraniens jusqu'à nouvel ordre en réaction à l'imposition des sanctions par l'Iran aux eurodéputés, a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, dans un communiqué. Nous ne nous détournerons pas de ceux qui nous regardent dans les rues iraniennes, indique le communiqué, exprimant en outre son soutien mal intentionné aux émeutiers incités par l'étranger. Nous sommes là pour vous, nous resterons à vos côtés, a-t-elle dit. En réponse aux actions des pays occidentaux contre l'Iran, les responsables iraniens estiment que politiser la question des droits de l'homme n'est en aucun cas productif et que l'instrumentalisation de cette affaire ne peut pas aider à promouvoir les droits de l'homme au sein de la communauté internationale. Des émeutes meurtrières ont éclaté en Iran depuis que Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, s'est évanouie dans un poste de police le 16 septembre et a ensuite été déclarée morte dans un hôpital de Téhéran. Une enquête a attribué la mort d'Amini à son état de santé, rejetant les allégations selon lesquelles elle aurait été battue par les forces de police. Au cours des deux derniers mois, des fauteurs de troubles et des voyous, dont beaucoup se sont révélés plus tard avoir des liens avec des parties étrangères, se sont déchaînés, se livrant à des attaques sauvages contre des agents de sécurité, du vandalisme, la profanation du lieu sacré et des meurtres sous fausse bannière de civils pour incriminer la police iranienne. Les émeutes en Iran ont également aplani le terrain à des attentats terroristes à travers le pays ces dernières semaines. Le 26 octobre, un terroriste affilié à Daesh a attaqué le sanctuaire de Shahjahrar dans la ville de Shiraz. Au moins 15 pèlerins, dont une femme et deux enfants, ont été tués et 40 autres blessés. Au moins 7 autres personnes ont été tuées après que des terroristes ont ouvert le feu sur la foule et des forces de sécurité dans un marché bondé de la ville de Izeh, dans la province méridionale du Khuzestan, vers le coucher du soleil mercredi dernier. En octobre, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé d'imposer des sanctions contre 11 individus et 4 entités iraniens suite à la réponse du pays aux émeutes soutenues par l'étranger. Une semaine plus tard, l'Iran a annoncé en contrepartie des sanctions contre les institutions et les individus de l'Union européenne en raison de leurs actions délibérées en faveur du terrorisme et des groupes terroristes. De plus, plus tôt ce mois-ci, l'Union européenne a imposé des sanctions à un certain nombre d'institutions et d'individus iraniens, dont Press TV, pour violation des droits suite aux récentes émeutes soutenues par l'étranger.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous joindre dans notre émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la France, justement en pleine crise énergétique européenne. Et surtout en France, les Gilets jaunes ont célébré le 4e anniversaire du mouvement de contestation à travers toute la France. Ces manifestations dégénérées en violence, comme l'usage de matraques ou bien de gaz lacrymogènes. Par ailleurs, la coupure d'électricité devient de plus en plus probable au mois de janvier, ce qui va ajouter bien sûr au mécontentement général donc, des Français. Donc les Gilets jaunes ont trouvé un nouveau souffle pour exprimer leur colère à travers le pays. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Samedi 19 novembre, les Français ont célébré le 4e anniversaire du mouvement de contestation des Gilets jaunes à travers tout l'Hexagone. À Paris, les manifestations ont dégénéré en violence, les forces de police ayant fait usage de matraques et de gaz lacrymogènes. Les violences d'hier dans la capitale française ont éclaté, alors que la France, à l'instar d'autres pays européens, connaît une crise d'énergie inédite issue de la guerre en Ukraine. À l'occasion du 4e anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, Paris a été le théâtre de violents affrontements entre la police et les manifestants. Certaines vidéos et photos partagées sur les réseaux sociaux montrent des forces de police utilisant des matraques et du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Des images montrent également les forces des compagnies républicaines de sécurité CRS, un corps spécial de la police nationale française, en train de frapper violemment des manifestants et leur arrachant des banderoles au cours d'un conflit. Le soulèvement des Gilets jaunes a été lancé pour la première fois le 17 novembre 2018, ayant donné lieu à de nombreuses manifestations contre la hausse du prix du carburant et du coût de la vie dans un grand nombre de villes en France. La manifestation du samedi a eu lieu dans un contexte politique particulièrement explosif dans l'Hexagone, où les ménages subissent au plein fouet une inflation record couplée au prix du carburant qui atteint en septembre le prix de 2 euros par litre. En effet, c'est tout le continent vert qui est touché par la crise énergétique. Or, la situation est particulièrement critique en France, qui a jusqu'à présent dépendu du carburant russe. De sorte que la présidente de la Commission française de régulation de l'énergie, Emmanuelle Wargon, avertit hier les Français qu'ils pourraient faire l'objet de coupures d'électricité ciblées et tournantes à partir du mois de janvier. Cité par la chaîne russe RT, Emmanuel Wargon a déclaré « Je suis très convaincu que le premier jour ECOWAT, dispositif d'alerte rouge, tout le monde prendra ça au sérieux pour réduire ponctuellement sa consommation et ainsi éviter une coupure ». De même, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE a prévenu la veille qu'il existerait à partir de janvier un risque élevé de tension sur le réseau électrique français en raison du redémarrage plus lent que prévu de réacteurs nucléaires EDF, a noté la chaîne de télévision russe.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour à vous.
Un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour également à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous et à votre équipe, et surtout à M. Cornu, que j'ai toujours plaisir de retrouver.
Très bien. S'il s'agit d'un débat, donc, M. Luc Michel, j'espère que, en tant qu'ami, vous allez vous contredire. En tout cas, ma première question va s'adresser à vous, M. Luc Michel. On a une grande impression que les Gilets jaunes ont retrouvé un nouveau souffle dans ces manifestations. Que pensez-vous?
Mais les Gilets jaunes, ça a été la première révolte sociale d'un peuple en Europe. Mais le mouvement a été durement réprimé. Il y a eu des mains arrachées, des manifestants dont des familles éborgnées. Il y a eu des centaines d'arrestations et d'assignations à résidence. En Belgique, où un mouvement du Gilets jaunes a tenté de se lancer, il a été écrasé par la répression. Des milliers d'arrestations en deux week-ends et il n'a jamais su se développer. Après la récupération par la répression, il y a eu la fragmentation du mouvement. Les principales figures des Gilets jaunes ont contribué à laminer le mouvement. Et ensuite, l'extrême droite est venue étouffer celui-ci. Je crains malheureusement que ce soit de nouveau le cas lors de la nouvelle révolte sociale qui se prépare aujourd'hui. La misère que les Gilets jaunes dénonçaient n'a rien à voir avec le coût de la guerre américaine en Ukraine. Il y a un appauvrissement sans précédent des populations européennes. Cet hiver, il faut choisir entre se soigner, se chauffer, manger ou rouler en voiture. Ça ne s'était jamais vu en Europe. Tout cela est sur fond de crise économique. Le système prétend que la crise n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, alors qu'elle est directement provoquée par les politiques des atlantistes à Bruxelles et des Américains en Ukraine.
Oui, merci, M. Bernard Cornu. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Luc Michel quand il dit que cette crise des Gilets jaunes n'a rien à voir avec la crise et le conflit en Ukraine, par exemple?
Enfin, il dit surtout que le gouvernement français dit que cette crise n'a rien à voir avec l'Ukraine. Mais ça, je crois que le gouvernement reconnaît qu'il y a un lien avec la crise en Ukraine, dont il est en petite partie responsable, puisque la France, l'Allemagne n'ont pas fait avancer le processus de Minsk qui avait été convenu pour trouver des solutions constitutionnelles en Ukraine, et donc territoriales aussi, suite aux demandes de la Russie qui voulait que les russophones de l'Est, Sud-Est de l'Ukraine soient toujours autorisés à parler russe et que ce soit aussi une des langues officielles en Ukraine. Donc il y a une responsabilité à l'origine de cette guerre. Il faut remonter vraiment au début, à cette passivité de l'Europe, de l'Union européenne, face aux tensions qui existaient depuis longtemps entre la Russie et l'Ukraine. Mais effectivement, cette crise de l'énergie est due à l'arrêt des livraisons d'énergie depuis la Russie, qui, elle, est liée aux sanctions liées à cette guerre. Donc il y a des responsabilités partagées et je crois qu'il est important que l'Union européenne, la France et l'Allemagne reconnaissent leurs responsabilités si on veut avancer vers une négociation réelle et un arrêt des combats. Je crois que toutes les parties dans un conflit doivent reconnaître leurs responsabilités, sinon ça ne bouge pas.
Bien sûr, on préfère bien sûr que ces pays-là reconnaissent leurs responsabilités, mais si ce n'est pas le cas, car les Gilets jaunes qui représentent bien sûr une grande partie du pays, bien sûr, sont très mécontents et bien sûr sont très en colère justement contre les prises d'opposition du gouvernement français à l'égard de cette crise, ce qui a abouti donc à une crise énergétique sans précédent. Monsieur Luc Michel, que pensez-vous?
Je crois que vous m'avez mal compris et vous me prêtez des propos qui sont à l'inverse de ma position. Les gouvernements atlantistes européens, dont les Français, sont totalement responsables de la crise économique qui se déroule sur fond de la guerre américaine en Ukraine. Ils ont été plus loin dans les sanctions que les Américains. Quand les Américains importent des engrais, du pétrole et du gaz de la Russie, les Européens, eux, ont totalement bloqué les livraisons. Et ils sont entièrement responsables de la crise que subissent leurs populations. Le grand géopoliticien européen, le général autrichien Jordi von Lausen, aujourd'hui décédé, disait à propos des guerres de Yougoslavie et d'Irak dans les années 90 que la participation des politiciens atlantistes de Bruxelles aux guerres américaines de l'OTAN était une trahison des intérêts fondamentaux des peuples européens. C'est ce qu'on vit à nouveau aujourd'hui. Les atlantistes sont responsables de la misère de leur peuple.
Monsieur Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, je suis d'accord avec ce point de vue. Et il y a, ce que je dis bien, c'est qu'il y a différentes responsabilités à différentes dates. C'est vrai que les Américains, le pouvoir américain et ses pétroliers, ses gaziers ont tout à fait intérêt à entretenir cette guerre. Et ils l'ont prouvé en finançant, en dégageant des budgets énormes pour livrer des armes, y compris sur les stocks de l'armée américaine. Mais la France et l'Allemagne ont réagi trop passivement dans les années passées pour ne pas faire avancer, en ne faisant pas avancer le processus de Minsk, qui aurait pu peut-être pacifier la situation, éviter une guerre. Et donc, ils sont co-responsables de cette crise énergétique. Il n'est pas sûr, cela dépendra de la météo, il n'est pas sûr que les coupures annoncées probables pour janvier de l'année prochaine, à une période d'hiver où il fera froid, alors qu'actuellement il ne fait pas trop froid encore par rapport aux habitudes du mois de novembre, décembre, donc peut-être ces coupures viendront. Et effectivement, moi qui ai vécu dans de nombreux pays avec des coupures, en Irak, il y a plus de 30 ans, au Liban très souvent dans les années passées, je sais que cette situation de coupure électrique tournante est très désagréable à vivre pour les gens, parce que et dès que les coupures commencent, généralement elles s'aggravent parce que les gens oublient de fermer l'électricité parce qu'elle est coupée, oublient de fermer les lampes, et donc on a des situations qui sont difficiles à gérer socialement. Donc moi j'espère qu'on arrivera à régler cette question et que le processus des négociations en cours, qui reste à mon avis très discret mais toujours continu, pourra arriver à sa fin. Mais encore une fois, pour que la Russie accepte de négocier tellement précisément, je pense qu'il faut que l'Europe accepte de souligner sa responsabilité, sa passivité lors du processus de Minsk, et qu'elle arrive à avoir des positions tout à fait indépendantes des États-Unis. Voilà, c'est oui. Un peu pour résumer mon espoir que une solution soit trouvée cet hiver pour arrêter cette guerre, arrêter les conflits armés et trouver des solutions diplomatiques acceptables par toutes les parties avant que l'Ukraine plonge dans aussi des pénuries d'énergie beaucoup plus graves parce qu'il fait encore beaucoup plus froid là-bas.
Justement, ce qui est très probable, M. Cornu, je m'adresse toujours à vous, M. Bernard Cornu. Vous dites que donc les Français sont peut-être trop gâtés et ne sont pas préparés à affronter de tels problèmes tels que la coupure d'électricité, ce qui semble très normal dans certains pays. Et est-ce que vous donnez raison tout de même aux Gilets jaunes d'exprimer leur mécontentement et peut-être d'éviter que la crise énergétique se développe?
Le mouvement des Gilets jaunes a commencé au moment aussi d'une hausse des taxes sur les carburants, parce qu'effectivement, une partie de la population a besoin de sa voiture pour se déplacer, pour travailler, beaucoup plus que les urbains qui ont toujours le métro, les bus, les transports publics à disposition. Donc c'est effectivement né d'une crise d'énergie, mais qui était prévue puisque ces taxes avaient été pour le climat, mais elles n'étaient pas assez ciblées, c'est-à-dire que le gouvernement a fait des mesures beaucoup trop générales, qui ne tenaient pas assez bien considération de la situation de différents ménages, de différentes régions, de différentes communes. Et donc, je pense que le gouvernement a tiré l'expérience et que s'il y a effectivement des déficits d'énergie cet hiver, les situations seront peut-être plus ciblées, les mesures sont ciblées. Et il y a déjà une préparation vis-à-vis de l'industrie depuis plusieurs années d'ailleurs, pour que les industries se préparent à diminuer leur consommation dans un cadre contractuel prévisible en fonction des pointes de demande annoncées et de la de climat annoncé, de la météorologie annoncée. Donc c'est une situation technique. Je connais effectivement bien le problème puisque j'ai travaillé longtemps dans l'énergie et j'ai vécu aussi dans des pays avec des coupures. Je pense que les Gilets jaunes ont raison de manifester, mais pour beaucoup de sujets différents, la hausse du coût de la vie, les problèmes très graves qui sont présents dans le secteur de la santé suite à la longue crise de la pandémie, suite au découragement de beaucoup de professionnels de la santé à tous les niveaux, que ce soit les infirmières, les infirmiers, les docteurs, les médecins et les cadres administratifs. Voilà, il faut espérer que des solutions soient trouvées rapidement pour satisfaire ces revendications sociales. Et ceci est vrai en France, mais aussi en Italie et dans d'autres pays. Voilà.
Oui. Monsieur Luc Michel, un responsable français a dit tout récemment que les Français étaient préparés à coopérer avec le gouvernement dans la probable coupure d'électricité. Est-ce que c'est le cas? Ou bien les Français sont peut-être trop gâtés et ne sont pas du tout préparés à affronter de telles crises et préfèrent donc de manifester et d'exprimer leur colère?
Non, ce n'est pas le cas. La soi-disant cohésion sociale vantée par les gouvernements atlantistes de l'Europe, c'est une fable de la propagande. Les populations européennes, elles connaissent une tiers-mondisation sans précédent de leur niveau de vie. Moi qui voyage souvent en Afrique, je connaissais les délestages, les coupures d'électricité quotidiennes au Cameroun ou au Tchad, mais c'était impensable en Europe. Aujourd'hui, on y est. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, les accords de Minsk ne s'appliquent plus. La Russie a entamé l'opération spéciale en Ukraine parce qu'elle s'est rendue compte que les accords de Minsk étaient une escroquerie des Occidentaux et qu'ils ne s'appliquent plus. Il ne s'agit plus aujourd'hui de fédéraliser l'Ukraine ou encore la Moldavie, mais il s'agit que les terres russes fassent leur retour à la Fédération de Russie, comme ça a été fait par l'annexion de Kherson, de Zaporozhia, de Donetsk ou de Lugansk. Donc, Minsk n'est plus d'actualité. Il n'est pas question d'y revenir et la Russie n'y reviendra pas.
Oui. Monsieur Luc Michel, revenons, si vous voulez bien, au mouvement de contestation des Gilets jaunes. Jusqu'où ça va continuer? Où ça va être coupé, comme ça a été le cas au cours de ces trois dernières années? Ou bien ça va se développer et peut-être aboutir à un certain résultat positif?
Écoutez, c'est encore pire parce que, comme le disait Monsieur Cornu, l'hôpital ne rencontre plus, par exemple, en Belgique, qui est dans la même situation que la France, l'hôpital ne fait plus face à ces mesures de santé publique. Il y a une crise énergétique, une crise économique, une crise alimentaire. Les gens vivent dans les privations. Et quand on se souvient que les Gilets jaunes se sont sortis dans la rue parce que l'essence était à 1,50 €, on annonce du litre d'essence ou le litre de diesel pour 2025 à 5 € le litre. Il faut revenir quelque chose, c'est que la crise, évidemment, ne va pas principalement frapper cet hiver-ci parce qu'il y a des réserves de gaz, notamment. Les cuves sont pleines avec les dernières livraisons russes. La principale crise, elle aura lieu lors de l'hiver prochain où il n'existera plus aucune réserve. À partir de ce moment-là, on doit s'attendre à un mécontentement social beaucoup plus violent que celui des Gilets jaunes, avec des gens qui n'auront plus rien à perdre. Mais face à cela, évidemment, il y a un développement de la répression, il y a un développement des moyens de l'État bourgeois dans cette répression judiciaire et policière.
Oui. Monsieur Bernard Cornu, donc vous pensez également que si la crise énergétique s'empire, justement avec l'arrivée de l'hiver, les choses vont s'empirer et les Gilets jaunes vont être joints par d'autres mouvements pour protester leur mécontentement et peut-être à une révolution générale, peut-être.
Disons, les effets de la crise énergétique en Europe, il faut voir les deux parties. Sur les transports, j'ai souvent souligné que les voitures restaient en Europe avec un taux d'occupation de 1,2 personnes, c'est-à-dire à un quart de leur capacité. Et donc, il y a encore beaucoup de solutions pour faciliter la mobilité avec moins de gaspillage d'énergie. Moi-même, comme un expert, j'ai toujours plaidé depuis plus de 30 ans pour la hausse des prix des carburants afin qu'on trouve d'autres systèmes de mobilité. Parce qu'il est très difficile socialement d'augmenter brutalement les carburants, comme ça a été tenté en Égypte, comme ça a été tenté d'ailleurs en Iran il y a quelques années et récemment aussi. Donc la politique de mobilité doit changer. Il y a beaucoup de gaspillage. Pour les logements, c'est différent parce qu'il y a très forte inertie dans le bâtiment. Un bâtiment est construit pour 50, 100 ans au moins. Et donc, il est difficile de faire les rénovations énergétiques de tous nos bâtiments qui sont peu isolés et qui pourraient consommer trois fois moins d'énergie s'ils étaient bien mieux conçus et bien isolés. Donc oui, il faut distinguer l'aspect du transport, de la mobilité, notamment quotidienne, et l'aspect du chauffage dans les maisons. Et ceci aussi lié au climat. Donc si effectivement nous avons un hiver très froid, comme ça peut se produire avec des moins 10, des moins 15 dans les grandes villes françaises, on aura des problèmes certainement cette année. Mais les problèmes de transport, effectivement, c'est très sensible parce que c'est au quotidien, mais des solutions peuvent être trouvées à la fois par la société et par les communautés territoriales, les municipalités, les régions qui sont en France responsables des transports collectifs.
Luc Michel, est-ce que vous pensez que le gouvernement va écouter des experts tels que M. Bernard Cornu dans cette crise énergétique?
Mais moi, je ne partage pas du tout la position de M. Cornu. Je ne pense pas que le problème de la mobilité ou du chauffage, c'est un problème qui soit un problème lié à ce qui est globalement l'écologie. Nous avions du gaz bon marché, nous avons du pétrole bon marché fourni par la Russie. Et on a choisi de couper le robinet des fournitures russes pour des raisons géopolitiques, la participation à la guerre américaine en Ukraine. Je rappelle la position russe. L'ancien président russe Medvedev, il y a quelques semaines, a appelé les populations européennes, je le cite, à sanctionner les politiciens idiots et irresponsables de l'Union européenne. C'est cela qu'il faut faire. Malheureusement, le système européen dirige les populations européennes vers une solution, c'est-à-dire vers l'extrême droite, qui sont les proxénètes politiques des politiciens atlantistes. On le voit par exemple avec Giorgia Meloni, qui a fait le gouvernement d'extrême droite italien le plus atlantiste des 50 dernières années. L'extrême droite n'est pas une solution. L'écologie est une impasse. En réalité, il faut revenir à l'alliance avec la Russie. Il y a une alliance géoéconomique naturelle entre les deux moitiés de l'Europe, que sont l'espace économique eurasiatique de Moscou et l'Union européenne de Bruxelles. Elles sont complémentaires. C'est précisément le second but des guerres américaines en Ukraine. C'est empêcher que cette jonction des deux Europes se fasse et de creuser un fossé infranchissable entre Moscou et Bruxelles. Je rappelle que Lavrov et Poutine sont des partisans de la Grande Europe, de Vladivostok jusqu'à Lisbonne.
Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir? Pour terminer, je vous prie.
Oui, je suis d'accord tout à fait. Est-ce qu'il faut que l'Europe, l'Union européenne, reprenne des liens économiques et politiques avec la Russie, mais encore une fois, pas pour acheter du gaz pas cher. Acheter de l'énergie pas chère crée une dépendance de long terme. En Russie, les bâtiments étaient très peu isolés. En Ukraine, les bâtiments sont très peu isolés, donc beaucoup de pertes d'énergie avec, à cause du gaz pas du tout cher venant de Russie. Donc il faut à la fois pour le climat et pour aussi réduire les dépendances face à des choses qui sont très inertes, qui sont difficiles à corriger, il faut à la fois reprendre les liens avec la Turquie, mais accepter aussi que l'énergie soit plus chère à long terme pour le climat et pour avoir des bâtiments mieux isolés, car sinon, comme on l'avait en Ukraine, en Russie, et en France aussi, parce qu'on avait l'électricité pas chère, alors qu'en Allemagne, l'électricité est beaucoup plus chère qu'en France depuis longtemps, les bâtiments ont été beaucoup mieux isolés et depuis longtemps. Donc voilà, reprendre les liens avec la Russie, arrêter cette guerre par une négociation, mais aussi tenir compte des problèmes de long terme du climat avec une énergie qui doit être beaucoup plus chère. Et de façon ciblée, avec des compensations pour les gens qui ne peuvent pas, pour des raisons de travail, de situation, qui ne peuvent pas changer leur efficacité énergétique très rapidement.
Eh bien, Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Vaucluse, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci également à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir apporté beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Ici, le Moyen-Orient.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Nous voici avec un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. L'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son site nucléaire souterrain de Fordo, et ce suite à résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique IAEA, adoptée sous le faux prétexte de manque de coopération des autorités iraniennes dans le dossier nucléaire. L'Iran a annoncé mardi 22 novembre qu'il avait informé l'Agence internationale de l'énergie atomique de sa décision de produire de l'uranium enrichi à 60% dans une lettre envoyée au Conseil des gouverneurs de l'IAEA. Téhéran a décrit la décision comme une réponse forte à la récente résolution anti-iranienne de l'IAEA. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, IAEA, Mohammad Istami, a annoncé ce mardi que la production d'uranium enrichi à 60% à Fordo a commencé depuis lundi. Dans une première mesure, l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo. Dans son deuxième action, l'Iran a injecté du gaz dans deux autres cascades de centrifugeuses, IR-2M et IR-4, sur le site de Natanz. De plus, l'Iran a installé et lancé de nouvelles centrifugeuses dans les salles vacantes des sites nucléaires de Fordo et de Natanz. Les salles où sont installées les nouvelles centrifugeuses étaient vacantes en raison de l'engagement de l'Iran à respecter les termes de l'accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan global d'action conjoint. Le rapport souligne que le remplacement des centrifugeuses IR1 à l'installation nucléaire de Fordo par IR6 multiplierait par 10 l'enrichissement de l'uranium sur ce site nucléaire. Les dernières mesures sont conformes à une loi approuvée par le Parlement iranien pour contrer dans toute leur étendue les sanctions unilatérales imposées par les États-Unis, l'Union européenne et l'IAEA à Téhéran. L'ambassadeur de l'Iran en Irak, l'ambassadeur d'Iran en Irak a fait un éclairage lundi 21 novembre dans l'après-midi au sujet de l'attaque contre les positions des terroristes séparatistes dans la région du Kurdistan irakien. Les forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, ont mené lundi 21 novembre de nouvelles attaques combinées à l'aide de missiles et de drones kamikazes contre plusieurs positions de groupes séparatistes et terroristes anti-iraniens dans le nord de l'Irak. Les frappes ont visé les positions du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, PDKI, et du Parti Komala dans la région du nord du Kurdistan irakien. 4 missiles ont été tirés sur une position du Beleshkon. L'Iran a remis aux responsables d'Erbil plus de 70 documents sur la présence des groupes terroristes armés dans la région du Kurdistan irakien, a précisé l'ambassadeur iranien à Bagdad, Mohammad Kazem Ali Sadiq. Le diplomate iranien a affirmé que Téhéran avait demandé au gouvernement central irakien et aux responsables du Kurdistan irakien de désarmer les groupes terroristes dans moins de 10 jours, avant de préciser que des frappes terrestres contre les groupes terroristes basés dans le Kurdistan irakien ne sont pas à l'ordre du jour. L'ambassadeur iranien à Bagdad a indiqué que la République islamique d'Iran avait conclu avec le gouvernement fédéral d'Irak et les autorités du Kurdistan irakien que les forces irakiennes se déploient le long des frontières de la région du Kurdistan. Mais cette promesse n'a pas été réalisée. Des infrastructures vitales à Kermanshah ont été prises pour cible par le service d'espionnage israélien Mossad et ces attaques étaient menées en provenance du Kurdistan irakien, a rappelé le diplomate iranien. En allusion aux négociations de la veille sur les questions frontalières, l'ambassadeur d'Iran a affirmé que nous avons demandé à la partie irakienne que le gouvernement central de Bagdad prenne en charge le contrôle des frontières. Toujours selon l'ambassadeur d'Iran à Bagdad, le gouvernement irakien a accepté cette demande mais a demandé un délai supplémentaire afin de pouvoir désarmer des groupes séparatistes et dissidents. Les groupes séparatistes doivent se désarmer et retourner au camp en tant que réfugiés, a dit l'ambassadeur d'Iran à Bagdad, dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre les appareils judiciaires des deux pays voisins. Nous avons trouvé un accord avec la partie irakienne au sujet de l'échange d'individus recherchés par la justice de part et d'autre. Depuis le 24 septembre, le corps des gardiens de la révolution islamique lance des raids contre les positions des terroristes retranchés au Kurdistan irakien. Les forces armées yéménites ont lancé pour la deuxième fois en novembre une attaque de drones sur le port yéménite d'Al-Zabba où accostent les pétroliers censés transporter le pétrole pillé du pays. Citant un responsable dans la province de l'Adramout, la chaîne libanaise Al-Mayadin a rapporté que l'armée de l'air yéménite a pris pour cible, lundi 21 novembre, un pétrolier dans le port d'Al-Zabba afin d'empêcher le pillage du pétrole yéménite. La chaîne libanaise a souligné qu'une violente explosion s'est produite en port après qu'un navire a accosté pour charger la cargaison du pétrole pillé du Yémen, affirmant que le pétrolier a quitté le port sans cargaison de pétrole. Al-Mayadin a également annoncé la fermeture de la voie maritime menant au port d'Al-Zabba, qui est sous le contrôle des forces du Conseil présidentiel du Yémen, dirigé par Rachid Al-Halimi, nommé par l'Arabie saoudite. Dans ce trafic, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a tweeté lundi que l'armée avait réussi à forcer un pétrolier qui tentait d'atteindre le port d'Al-Zabba à battre en retraite. Selon le général Yahya Sali, les forces armées yéménites sont entrées en action après que le navire, ayant la mission de voler d'énormes quantités de pétrole, a ignoré les avertissements de l'armée. Les forces armées yéménites continuent de défendre le trésor national afin que ses revenus puissent être utilisés au profit des yéménites et payer le salaire de chaque employé dans toutes les régions du Yémen, a déclaré le général Sali. Plus tôt, à la mi-novembre, les forces armées yéménites et leurs alliés ont réussi à arrêter un pétrolier étranger dans les eaux au large de la province méridionale de Shabba, riche en ressources énergétiques, alors qu'il tentait de faire passer des centaines de milliers de barils de carburant du peuple yéménite. Nous sommes en mesure de lancer davantage d'opérations d'alerte pour défendre le peuple yéménite, a déclaré le général Sali, ajoutant. Nous renouvelons notre avertissement à toutes les entreprises pour qu'elles se conforment pleinement aux décisions des autorités de Sanaa et qu'elles s'abstiennent de toute contribution au pillage des richesses yéménites. Dans un communiqué, le ministère yéménite des Affaires étrangères a dénoncé la réaction du Conseil de sécurité des Nations unies à l'avertissement au terminal Al-Zabba où était accosté un pétrolier grec pour charger du pétrole. Le Conseil de l'ONU avait prétendument qualifié l'avertissement de menace sérieuse pour le processus de paix et la stabilité au Yémen. L'armée turque a mené de nouvelles frappes aériennes contre le nord-est de la Syrie, tuant un certain nombre de militaires et de civils syriens. Selon le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, les frappes aériennes de la Turquie contre la ville d'Alep en Syrie ont fait des victimes parmi les civils. Les frappes aériennes menées par des avions de combat turcs F-16 dans le gouvernorat d'Alep en Syrie ont fait des victimes parmi les civils, a déclaré dimanche Oleg Yegorov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Les frappes de ce dimanche 20 novembre ont visé des zones résidentielles syriennes d'Afrin et de Kobani. La chaîne de télévision Oudaw, basée à Erbil, a rapporté qu'au moins 15 soldats syriens avaient été tués dans les frappes turques contre les zones kurdes des gouvernorats d'Alep, de Raqqa et de Hasaké. Au moins 9 civils ont trouvé la mort, selon des sources syriennes, sur le terrain. La Turquie affirme que les raids aériens visent des éléments kurdes soutenus par les États-Unis, connus sous le nom d'Unité de protection du peuple YPG et le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, qu'Ankara accuse d'entretenir des liens avec les YPG. Le gouvernement turc accuse le PKK d'un attentat à la bombe survenu le 13 novembre dans une artère commerçant d'Istanbul qui a fait 6 morts et plus de 81 blessés. Entre 2016 et 2019, l'armée turque a lancé 3 opérations d'envergure dans le nord de la Syrie visant les éléments kurdes membres des YPG. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays pourrait mener une nouvelle opération contre les YPG. Dimanche 20 novembre, une base militaire turque dans la campagne d'Alep, dans le nord de la Syrie, a été pilonnée. Des obus de roquettes tirés depuis les zones contrôlées par les forces démocratiques syriennes FTS ont touché la province turque de Kilis en riposte aux frappes aériennes turques. Des frappes lancées depuis des zones contrôlées par les FTS visaient la base turque près du point de passage de Bab el-Salama, au nord d'Alep. Un soldat et 2 membres des forces spéciales de la police turque ont été blessés lors de cette attaque à la roquette sur la province turque de Kilis à la frontière syrienne. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.
Ici, le Moyen-Orient. Thank you.